Livre du prophète Daniel, chapitres 1 et 2. Le livre de Daniel traite du temps où Israël, le peuple de Dieu, est assujetti aux gentils. La première chose qui nous y est présentée, c'est l'accomplissement de la menace faite à Ézéchias en Ésaïe 39, versets 6 et 7. Le trône de Dieu est enlevé à Jérusalem. La puissance et le royaume sont transportés au milieu des gentils, et, quant à son état, Israël, en vertu du jugement de Dieu, n'étant pas désormais son peuple, est retenu en captivité. Cependant, Dieu ne l'abandonne pas et approprie ses bénédictions à cet état, quel qu'il en soit. Dans les circonstances dont je viens de parler, la chose qu'il importait le plus à l'Israélite fidèle de connaître était l'histoire de la puissance des gentils à laquelle le peuple de Dieu était assujetti, ou, en d'autres termes, le caractère et la conduite de cette puissance, et quelle serait la condition du peuple de Dieu sous son empire. Enfin, quel serait l'effet de ces choses sur l'accomplissement des promesses faites à Israël. Comme il s'agissait en tout cela de la gloire de Dieu, puisque Dieu avait confié à ses gentils la puissance sur la terre, il importait aussi de connaître quelle serait leur conduite sous cette responsabilité. Ce livre embrasse donc deux sujets principaux. En premier lieu, le caractère et la conduite des quatre monarchies qui remplissent la période appelée le temps des gentils, depuis le moment où Dieu s'est retiré de Jérusalem, où son trône a cessé d'y être, où il a été transféré aux gentils la puissance impériale du monde, jusqu'au moment du rétablissement de ce trône en Israël. En second lieu, les rapports de ces nations avec Israël, son peuple, pendant la période où elles exercent la suprématie qui leur a été confiée. Il ne faudrait pas penser qu'il n'y ait rien de pratique en tout cela. D'abord, le chrétien y est informé du résultat du train de ce monde et averti des choses qui ne se voient pas encore. Il s'en sépare et s'éloigne de l'esprit de ces choses dont le dénouement sera si terrible. De plus, il est tranquille et heureux, il ne sent pas le besoin de livrer son cœur au monde qui l'entoure, car Dieu a d'avance ordonné qu'elle en sera le cours et révélé qu'elle en sera la fin. Mais il y a encore un autre point. Non seulement le contenu de ce livre nous est précieux en tant que tout se rapporte à Christ et au peuple aimé de Dieu, mais, comme il arrive pour toute communication de la part de Dieu, il y a une joie particulière dans le fait qu'il s'entretient avec nous. Nos âmes ne sont-elles pas heureuses quand Dieu nous parle? Or, il ne fait autre chose que de nous parler dans les prophéties comme dans toute autre partie de la parole. Cela nous fait sentir à la fois notre proximité de lui et sa bonté envers nous. Aussi, notre foi en est-elle fortifiée et la sanctification de nos âmes augmentée et affermi. Le livre de Daniel se divise en deux parties distinctes, selon les deux grands sujets qu'il contient. Six chapitres composent la première, et les six autres la seconde. Les six premiers renferment, non des communications faites à Daniel, sauf quant au sujet qu'il doit interpréter, mais les songes du roi Nebuchadnezzar, ou les circonstances survenues au chef de l'Empire. On trouve ici les grands principes généraux des monarchies des gentils ou leur histoire publique dans le monde, communiquée prophétiquement à leur chef ou manifestée dans leur conduite. Les six derniers chapitres sont des communications faites au prophète lui-même. Elles révèlent non seulement les circonstances de l'histoire de ces empires, mais ce qu'ils sont aux yeux de Dieu, ainsi que les détails de leur rapport avec les Juifs et avec le culte célébré au milieu de ce peuple. Cela regardait Daniel, comme prophète de Dieu, ayant le peuple de Dieu et la gloire de Dieu à cœur, et ne se bornait pas uniquement à une histoire générale des empires. Voyons maintenant ce qui met Daniel en mesure d'être le dépositaire des voies de Dieu au temps de la détresse et de la captivité de son peuple. Il refuse de se souiller en mangeant la nourriture de ce monde. Dieu qui prépare et ordonne tout pour le bien-être des siens, quelles que soient leurs circonstances, quand ils veulent marcher fidèlement, avait disposé le cœur du chef des eunuques en faveur de Daniel et de ses trois compagnons. Cet homme qui les surveillait avait beaucoup de bonté pour eux. Dieu répond aussi aux prières de Daniel qui, de son côté, ainsi que ses compagnons, est aussi bien et même mieux de santé que tous ceux qui s'accommodaient aux voies et à la nourriture de ce monde. En un mot, Daniel est fidèle à ce qui constitue la séparation complète du monde selon la loi juive et refuse de se nourrir des viandes de la table du monarque païen, conduite en apparence condamnable, mais Dieu répond pleinement à sa foi. Ce fait est donné comme base et introduction à toutes les révélations de ce livre. Il en est de même pour nous. C'est la séparation du monde, le refus complet de nous nourrir de ce qu'il pourrait nous donner, qui nous met en position de recevoir les communications de Dieu. Leur plénitude est dans la parole écrite, mais nous ne les recevons jamais que par l'enseignement direct de Dieu, afin que ce soit par la foi, quel que soit l'instrument dont Dieu se serve pour nous les présenter. Dieu prépare bientôt l'occasion où Daniel devra lui servir de témoin, après l'avoir, par sa grâce, disposé à sa mission. Il agit par des voies qui laissent le monde complètement en défaut. Il permet que la mémoire manque à Nebuchadnezzar, afin de le placer forcément sous la dépendance du prophète qui possédait le témoignage de Dieu et dont le Tout-Puissant voulait faire ressortir l'intelligence divine. Cependant, au moment de la difficulté, Daniel ne sait pas la résoudre plus que les autres. Dieu lui fait sentir sa dépendance, mais il a la foi. Et la dépendance et la foi s'identifient. À la demande de Daniel, lui et ses compagnons se mettent à prier le Dieu des cieux, car c'était sous le caractère de Dieu des cieux que Daniel le connaissait. Plus tard, il sera aussi, de fait, le Dieu de la terre, comme il l'est toujours, de droit. Dieu leur répond en se servant de toutes ses difficultés pour s'identifier avec le pauvre résidu de son peuple. La première chose que fait Daniel n'est pas de courir vers le roi pour annoncer la découverte du secret et jouir de la délivrance. Il se tourne avec action de grâce vers Dieu qui l'a exaucé. Il lui attribue tout ce qui pouvait consoler le résidu pendant la domination de ces puissances rebelles à Dieu. Chapitre 2, verset 21. Auprès du roi, Daniel ne s'élève pas. Il se cache, pour ainsi dire, derrière la gloire de Dieu. C'est quand nous savons nous anéantir complètement que nous sommes vraiment élevés. Car si Daniel disparaît, Dieu lui-même se manifeste en lui. Puissions-nous avoir la sagesse et la force spirituelle de disparaître ainsi derrière Jésus pour le mettre toujours en avant, afin que lui seul paraisse. Car tel est notre grand et précieux triomphe. Quant à l'interprétation du songe, peu de mots suffiront, vu les lumières généralement répandues aujourd'hui sur ce sujet. Tous y reconnaissent les quatre grandes monarchies, la babylonienne, celle des Perses, la grecque et la romaine. Dans les versets 37 et 38, la domination est donnée à Nebuchadnezzar par le Dieu des cieux, une domination universelle, unique et absolue sur la terre, et non sur les mers. Il ne nous est pas dit jusqu'à quel point cela a été réalisé, mais le don en a été fait, et cette monarchie est la première qui, à ce qu'il paraît, ait possédé cette puissance de la manière la plus pure et la plus absolue, c'est-à-dire directement de la part de Dieu. Elle était dans la personne de son chef, la tête d'or. La quatrième devait tout écraser par sa force, mais à la fin elle serait divisée, et dans cet état, elle serait mélangée de force et de faiblesse. Résultat de l'union de l'Empire avec des éléments hétérogènes, c'est-à-dire, selon moi, les barbares avec ce qui était proprement romain. À la fin, le Dieu des cieux établira le royaume du Christ, qui mettra de côté par le jugement toutes ces monarchies. Remarquons ici que le royaume du Christ est son royaume établi en puissance dans le monde, et non la douce influence de l'évangile de la grâce. La première chose que fait la petite pierre, avant de croître et de devenir une grande montagne qui remplit toute la terre, est de frapper la statue, en sorte qu'elle devienne comme la balle de l'air d'été. Ce n'est qu'après cela que la pierre devient une montagne, c'est-à-dire quand Christ aura exécuté le jugement qui brise et détruit la puissance des gentils. Alors son royaume remplira la terre comme un royaume terrestre et de jugement. Jusqu'ici, nous n'avons que l'histoire des monarchies sans les caractériser moralement devant Dieu, ni signaler leur conduite. C'est ce que l'on trouve dans les quatre chapitres suivants. Je ne ferai qu'indiquer, pour y revenir plus tard, les traits qui nous en sont donnés. Le premier, c'est l'idolâtrie, où la puissance civile s'efforçant de soumettre le peuple à la loi d'une unité religieuse, dont cette puissance a établi l'objet, savoir la statue d'or. Le second trait, c'est que les chefs de l'Empire deviennent des bêtes, c'est-à-dire qu'ils perdent la conscience de leur relation avec Dieu. Au lieu d'être sous sa dépendance, selon les lumières du pouvoir d'en haut, ce qui est la seule et vraie gloire de l'homme, ayant perdu ses lumières, ils se placent au rang des bêtes. Le troisième trait est l'impiété. Elle se montre dans la conduite de la puissance impériale envers les Juifs et le Dieu des Juifs, dont il déshonore le nom, ainsi que tout ce qui sert à son culte. Le quatrième trait est l'exaltation de l'homme, le chef de l'Empire se faisant Dieu et défendant qu'on adresse des prières à d'autres qu'à lui seul. Dans tous ces cas, l'histoire se termine par l'exaltation du vrai Dieu. Dans le premier cas, le gentil reconnaît le Dieu de ceux qui ont préféré la fournaise à l'idolâtrie. Dans le second, les gentils eux-mêmes reconnaissent le Dieu des cieux qui les a abaissés quand ils marchaient dans leur orgueil, orgueil dont Babylone avait été le centre. Dans le troisième, le jugement est exécuté contre le roi impie. Dans le quatrième, ce n'est pas seulement le Dieu des cieux qui est proclamé, mais sa puissance est établie avec autorité, et il est reconnu que son royaume est celui qui durera à toujours.